Digue Radio, la radio qui vous écoute.
On va commencer par vous, Madame Vance, de la Mutualité Française. On parle de la santé mentale, mais au final, la santé mentale, c'est quoi ?
Oui, bonjour à tous. Donc Aline Vance, moi je suis chargée de prévention à la Mutualité Française Pays de la Loire. Donc la Mutualité Française, hein, c'est une fédération qui fédère des mutuelles qui sont au service de leurs adhérents. Mais notre service de santé dépasse largement les adhérents des mutuelles, hein, puisqu'on s'adresse à toute la population. Avant de travailler sur la santé mentale, on travaille sur la santé tout court. Qu'est-ce que c'est que la santé tout court ? Hein, messieurs, dames, on va commencer par se demander aujourd'hui, là, maintenant, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Si je vous demande, messieurs, dames, comment vous vous sentez là, maintenant, aujourd'hui ? Fatigué, ok ? On voit bien, hein, messieurs, dames, que ça vous demande un temps, et c'est bien normal, de retour sur soi, se poser la question, comment je vais ? Définir comment je vais, trouver les mots, toutes les nuances, d'accord ? Ça, c'est déjà de la santé mentale, de s'occuper de comment on va aujourd'hui. Alors, on peut parler du corps, on peut parler de l'esprit, hein ? Mais en tout cas, la santé mentale est inclue dans ce que nous, on définit comme définition de la santé, à savoir que selon l'OMS, hein, la santé est un état complet de bien-être physique et mental, et social, hein, donc il y a les trois piliers, et pas seulement l'absence de la maladie ou d'infirmité. Ça va pour vous, cette définition de la santé ? Donc on n'est pas du tout dans la santé sanitaire, hein, on est dans la santé sociale, le bien-être, les comportements, etc., les habitudes de vie. Cette grande définition de la santé inclut la santé mentale. Quand je vous demande comment vous allez, ça en fait partie. Je vais vous lire la définition, toujours selon l'OMS, hein. Le bien-être mental, on vous dit, est une composante essentielle de la définition de la santé que donne l'OMS. Une bonne santé mentale permet aux individus de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et de contribuer à la vie de sa communauté. Donc voilà, selon nous, hein, c'est un champ de travail, la santé mentale, c'est de permettre à chacun d'avoir une bonne santé, d'être bien dans son corps, d'être bien dans sa tête, pour pouvoir effectuer tous ses projets, ses souhaits de réalisation dans la vie. Il y avait une diapo avant où je me disais, enfin, la question c'était, pour vous c'est quoi la santé ? Messieurs, vous êtes d'accord avec ces définitions ? Vous avez une autre façon d'appréhender ce concept ? Est-ce que ça vous convient ? Voilà, je vous sens en réflexion. Ok. En tout cas, voilà, je vous invite à vous poser la question. Hein. Pour moi, être en bonne santé, c'est quoi ? On se rend compte quand on travaille avec les personnes que être en bonne santé pour Pierre, Paul, Jacques, Janine ou Martine, c'est pas forcément la même chose. Et ça, c'est d'accord. Hein. C'est pas quelque chose d'absolu. On a chacun nos critères de notre santé. Qu'est-ce qui nous fait du bien ? Qu'est-ce qui nous permet de réaliser nos objectifs ? Hein, donc je vous invite à vous poser la question. Et puis, donc on vous disait dans la diapo d'avant qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale, hein, que l'un est avec l'autre. Et si on rentre dans notre entonnoir, c'est quoi la santé mentale, puisque ça fait partie de vos objectifs de travail ? Eh bien, on va placer la santé mentale sur on dit que c'est un continuum. Hein, c'est-à-dire que entre la bonne santé mentale, où je vais très très bien d'un bout, et puis une santé mentale qui est plus fragile à l'autre bout, eh ben, il y a tout un tas de nuances et de circonstances qui peuvent faire que dans une journée, une semaine, une vie, je vais me sentir plus ou moins bien. Ça ne veut pas dire que je vais très mal, mais la santé mentale, c'est ça. Hein, c'est quelque chose qui va être fluctuant en fonction de notre âge, des événements qui nous rendent joyeux ou pas. Hein, et en fait, ça va être tout ça, la santé mentale. Donc on est tous concernés par cette histoire de la santé mentale. Souvent, on se rend compte, hein, qu'en santé mentale, on pense que bah, c'est des gens qui sont inaptes au travail ou qui ont une maladie mentale. Pas du tout. La santé mentale, c'est vraiment tout le monde qui est concerné et tout le monde qui peut participer à cette œuvre. Voilà, on rentrera peut-être après dans les détails sur la formation, peut-être, mais Voilà, je voulais être brève exprès. Merci de votre attention.
Maintenant qu'on a défini la santé mentale, je me tourne vers Myriam Boutera de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et ainsi que Cynthia Bousseau après de la MSA. Myriam, vous, comment on prévient, comment on identifie les différents potentiels et les signaux d'alerte que vous avez dans le métier de l'artisanat et de l'entreprise?
Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, je suis Myriam Boutera de la Chambre des métiers et des Pays de la Loire. Je suis chargée de développement en prévention santé des dirigeants sur une mission unique en France au sein d'un réseau consulaire, puisque je me suis spécialisée en 2017 sur la promotion et la prévention santé. Donc on travaille effectivement pour un public que je nomme volontairement les invisibles de la santé, et spécifiquement pour le sujet qui nous tient aujourd'hui à cœur, c'est les invisibles de la santé mentale. Et pour juste vous situer sur votre territoire qui est couvert par le CLS, vous avez 1276 dirigeants entrepreneurs de l'artisanat. Donc voilà, c'était aussi que vous puissiez vous projeter sur ce volume que ça peut représenter. Alors, dans les spécificités de notre public, avant juste de donner les repérages que l'on a, nous, au regard de leurs spécificités, en fait, il y a trois éléments principaux à avoir en tête par rapport aux entrepreneurs de l'artisanat. C'est qu'ils ont majoritairement quatre facteurs pathogènes en matière de santé, mais qui peuvent résonner sur la question de la santé mentale. Le premier, c'est le stress. Le stress est banalisé et normalisé chez beaucoup de chefs d'entreprise, et c'est un des éléments qui fait partie de leur quotidien et qui peut être vraiment problématique sur la durée. Alors bien évidemment, on peut parler de maladies chroniques, mais on peut parler aussi d'anxiété, d'épuisement professionnel, de dépression, voire d'addiction, puisque on est aussi parfois confronté à cela. Donc le premier facteur pathogène va être le stress. Le deuxième, c'est l'incertitude. Le troisième, ça va être la surcharge de travail. Et puis le dernier, et vous avez bien choisi votre journée puisque nous sommes la journée mondiale des solitudes. Donc pour cette signature de contrat, je trouve que la symbolique est très très forte. Et les chefs d'entreprise de l'artisanat sont aussi concernés par, non pas la solitude, mais les solitudes du dirigeant. Du coup, ça questionne aussi autour de cette question de la santé mentale, la santé sociale. Donc voilà pour être déjà sur ces quatre premiers facteurs. Ensuite, on a une population où majoritairement ce sont des personnes qui sont dans l'abnégation. Ils vont prioriser la vie, le développement, la survie de leur entreprise. Pourquoi ? Parce que leur structure leur permet de gagner leur vie. Ils vont avant tout faire en sorte que leur entreprise soit rentable, qu'il y ait de la trésorerie. On enchaîne depuis quelques années les crises. Sur certains territoires, notamment, je pense, comme j'ai une mission régionale, je pense notamment à Nantes où il y a eu les émeutes qui ont aussi impacté, en créant de véritables traumas pour les dirigeants. Donc là aussi, ce sont des axes sur lesquels il est important de pouvoir travailler. On a aussi un public qui a, je vais dire ça comme ça, des filets de sécurité en matière de santé qui sont relativement faibles en matière de prévoyance, de protection sociale. Et je vous donne juste un indicateur, puisqu'on a un baromètre annuel pour les artisans sur les Pays de la Loire, et 7 sur 10 déclarent ne pas pouvoir s'arrêter malgré un arrêt maladie prescrit. Pour quelles raisons ? Deux raisons principales. La première, c'est que ça génère des incidences financières. Et la deuxième, c'est qu'ils n'ont pas de bras droit pour être secondés. Donc ça, ce sont nos réalités dans l'artisanat. Et il est important pour nous, du coup, de pouvoir agir. Et dernier indicateur que je vous donne, parce que dans les idées reçues qu'on a sur cette population des dirigeants, alors c'est l'image sociale du chef d'entreprise, mais un indicateur, et ça me permettra, on reprendra peut-être juste après les repérages, mais ça me permettra de passer le micro à ma collègue de l'agriculture. Le gradient social de la santé des artisans, il n'est pas comparable au cadre, mais il est plus proche de ceux des employés. Ça peut surprendre, Mais quand on connaît ce public-là, on se dit qu'effectivement, il y a des vraies réalités à prendre en compte. Et du coup, ça me permet de transmettre le micro parce que les artisans et les agriculteurs, ils ont un gradient social de santé qui est très, très proche. Donc, je fais la liaison en même temps.
Et pour rebondir, c'est l'actualité aussi du moment avec les agriculteurs. Donc, on est en plein dans le sujet. Comment vous avez ces signaux d'alerte? Comment vous les identifiez avec le côté agriculteur?
Bonjour à toutes et à tous, donc Cynthia Bousseau, je suis chargée de développement santé à la MSA Loire-Atlantique Vendée. Alors pour commencer, quelques chiffres, au niveau du taux de présence du régime agricole en Vendée, on est à 8% et sur les deux communautés de communes qui concernent ce contrat local de santé, on est à 10% en fait de taux de présence du régime agricole, donc on est sur deux communautés de communes pour lesquels la MSA a un enjeu fort. Et effectivement, au niveau des professions agricoles, on va retrouver des obstacles, des situations fragilisantes qui vont avoir une influence qui peut être négative sur la santé mentale. Donc je vais en citer quelques-unes que vous connaissez très bien, mais effectivement, le milieu agricole est confronté aux aléas climatiques, aux crises sanitaires, aux risques financiers et effectivement tout ça c'est des enjeux qui aujourd'hui font l'objet de manifestations et donc avec ces risques qui sont plus spécifiquement liés à aux professions agricoles, eh bien on va avoir des risques de fragiliser que les personnes aient une santé mentale fragilisée. Donc nous, au niveau de la MSA, on met en place plusieurs dispositifs pour accompagner les personnes et notamment de la formation au repérage des situations fragiles, au repérage des souffrances psychiques et de la crise suicidaire. Donc pendant ces formations, justement, sont donnés des éléments pour pouvoir identifier et repérer ça peut être des changements d'humeur, des changements de comportement, de l'isolement. Et effectivement, je rejoins tout à fait la question aussi de l'isolement géographique et social que peuvent aussi subir le milieu agricole. Donc cette question aussi de sentiment d'inutilité qui peut être un indicateur. Et tout ça, bien sûr... On va pas dresser un portrait morose en fonction des personnes. Il y a aussi une capacité de résistance au stress qui est différente. Il y a aussi des ressources familiales, un environnement bienveillant, des possibilités d'avoir une écoute attentive, des personnes de confiance. Et donc, bien évidemment, toutes les personnes ne vont pas être confrontées à des difficultés au niveau de la santé mentale. Mais on est conscient qu'on a quand même des situations qui sont inquiétantes. Et donc pour cela, je parlais de la formation qui est mise en place avec une association nantaise, Solipsy. On a également des dispositifs d'aide au répit pour les salariés et les exploitants agricoles. On a également un numéro national Agri-Écoute. Derrière, ce sont des psychologues qui écoutent et qui orientent aussi vers les bons interlocuteurs. Donc voilà, c'est tout un réseau d'acteurs avec lesquels on travaille, donc comme aussi Solidarité Paysan, et pour lesquels on accompagne. Et bien sûr, on a nos élus de territoire. Donc la MSA fonctionne sous un modèle mutualiste, et donc nos élus sont des personnes de proximité, des personnes qui connaissent très bien le monde agricole, qui ont contact quasiment au quotidien avec leurs confrères et qui peuvent faire remonter des situations préoccupantes auprès de la MSA et des partenaires. Je vous repasse la parole, effectivement, parce que vous avez peut-être des solutions similaires pour les artisans.
J'allais y venir, forcément, les situations similaires au niveau de la CMA.
Nous, notre accompagnement, en fait, il est en ce qu'on appelle la santé à 360. Tout à l'heure, il a été précisé qu'effectivement, tout est santé. À partir des définitions, vous l'avez bien compris. Donc, quand je parle de santé 360, c'est la santé de l'entreprise, c'est la santé au travail et c'est la santé publique, donc la santé aussi de l'individu. Et ce décloisonnement, en fait, permet d'agir de manière très concrète pour un chef d'entreprise pour qui l'entreprise, c'est son troisième enfant ou son bébé. Donc, il est important pour nous d'avoir cette vision-là. Et concrètement, en fait, sur le terrain, on va proposer différentes actions. Donc, on a tout plein, enfin on a un parcours hein, d'accompagnement sur des actions collectives qui visent en fait majoritairement à mettre un sujet sur la table et à libérer la parole, à échanger aussi des bonnes pratiques. On va avoir un axe de formation, alors que l'intitulé porte bien son nom, c'est être bien dans sa boîte, dans son corps et dans sa tête. On a également un service d'écoute et de soutien, comme peut le proposer la MSA, on a un service dédié aux artisans que vous avez, on vous a mis, hop, je vous montre juste, on vous a mis la plaquette à l'entrée, hein. N'hésitez pas à vous en saisir, il y a un QR code, c'est un accès complètement gratuit et confidentiel, et c'est un premier en fait, niveau d'écoute, et ensuite, au besoin, le chef d'entreprise est orienté vers un psychologue. Mais comme je dis souvent, on n'oriente pas un artisan comme ça en deux minutes auprès d'un psychologue, hein. Il y a toute une phase d'acceptation et d'écoute et de confiance qui doit être assurée. Et puis, dernier point, c'est que nous, la question de la promotion et de la prévention santé dans l'entrepreneuriat, on le fait très en amont, c'est-à-dire avant même qu'il s'installe. Puisque depuis 2018, ça a été expérimenté à la Chambre de métiers de Vendée, on a un module dédié à la création d'entreprises qui s'appelle Entrepreneur, ma santé c'est mon capital, et qui permet justement de passer des premiers messages essentiels sur la question de la prévention santé, avec des choses qui peuvent être basiques mais qui sont essentielles dans le quotidien. Donc je souligne aussi le côté prévention santé au-delà de la question de la santé mentale, l'importance de la question de la prévention santé, et elle est multiforme, et j'y adjoins aussi la question de la promotion santé. L'un va avec l'autre.
Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui permettent de définir tout de suite les signaux d'alerte ? Est-ce qu'il y a besoin de communiquer ? Est-ce qu'il y a besoin de se rapprocher peut-être de partenaires pour la CMA ?
Alors, vis-à-vis des artisans, en fait, on est organisé avec des conseillers qui travaillent en fait avec les entreprises, donc avec les chefs d'entreprise. Ils ont un premier niveau d'information sur cette question de la prévention santé. Donc, ils sont à même en fait de détecter un chef d'entreprise qui est plus stressé que d'habitude, qui émotionnellement va être dans un état différent. Qui va exprimer des choses, c'était pas à son habitude, qui va plus s'isoler, qui va aussi rencontrer des difficultés au sein de son entreprise, difficultés à recruter, des départs de collaborateurs, un événement de vie personnelle, décès d'un conjoint, une séparation, tous ces événements de vie qui touchent à l'entreprise ou qui touchent à l'individu peuvent résonner d'une manière ou d'une autre, à court terme, à moyen terme, et chacun, comme c'était très bien exprimé juste avant, chacun a ses ressources. Donc certains vont vivre l'événement relativement sereinement, et puis pour d'autres, ça va constituer un point de vulnérabilité, et auquel cas, il va falloir pouvoir les aider à passer le cap, parce que dans une entreprise, il y a parfois aussi d'autres collaborateurs, des apprentis, des salariés, et ça forme un tout. Donc un dirigeant qui ne va pas bien, ça peut causer des difficultés, et du coup ça résonne aussi après sur la dimension territoriale à plus grande échelle.
Et en termes agricoles, est-ce qu'il faut être accompagné ? Est-ce qu'il faut aller voir les autres agriculteurs peut-être pour discuter, pour prévenir de ces signaux d'alerte ? Qu'est-ce que vous conseillerez à ces agriculteurs ?
Oui, la communication, ça reste effectivement un point important parce que ça va permettre de décharger. Ça va permettre aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à rencontrer des difficultés et qu'en étant à plusieurs, on peut peut-être trouver des solutions. En tout cas, qu'une personne puisse nous donner aussi des conseils, des outils. C'est vrai que voilà, il n'y a pas toujours l'intervention après d'un psychologue. Déjà, le fait d'être entouré et de ne pas rester seul, et effectivement, hein, le repli sur soi, l'isolement, c'est aussi des signaux qu'il faut prendre en compte. Et donc, c'est bien effectivement dans le sens où plus on va communiquer, plus on va être entouré, et plus on va pouvoir trouver de la ressource et ne pas, tomber dans le fond du trou. Avec une situation après où c'est très compliqué.
On va continuer cette table ronde avec le CMP qui est juste avec moi, monsieur docteur Perret. Bonjour docteur.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le CMP ?
Je vais parler de la psychiatrie de manière un peu plus large pour commencer. Déjà pour souligner pour ceux qui ne le savent pas que la psychiatrie est organisée depuis les années 1960 sous la forme de sectorisation, c'est-à-dire que pour un secteur géographique dévolu, un service de soins hospitalier de consultation, voire d'hôpital de jour, CATTP, est mis en place. Donc là, concernant notre secteur géographique, c'est un secteur... Faut dire pour être simple que la Vendée est séparée en quatre quarts, deux à l'est et deux à l'ouest, nord-sud. Nous sommes au quart sud-est. Donc c'est un secteur qui, pour vous donner une idée, s'étend de la Châtaigneraie, qui fait tout le pourtour des Deux-Sèvres, pour aller jusque... à la limite de Luçon et une diagonale ensuite de Luçon, La Caillère, Châtaigneraie. C'est un secteur conséquent géographiquement. Voilà, sur le plan ambulatoire, pour mener à bien nos actions de soins, il y a une dotation de deux centres médico-psychologiques, à Châtaigneraie, un à Fontenay. Et à Fontenay, on a également une dotation d'hôpital de jour. Pour faire fonctionner ce service, avant que je vous dise comment il fonctionne, nous avons deux secrétaires, j'ai la chance d'avoir pu avoir une deuxième secrétaire dans l'espace de cette année. Nous avons trois psychologues, j'ai la chance d'avoir une troisième psychologue cette année. Nous avons un médecin qui est moi, un médecin intérimaire une journée et demie par semaine à la Châtaigneraie. J'intervenais beaucoup à la Châtaigneraie, mais depuis son arrivée, une grosse partie de mon activité lui est dévolue. Et on a un psychiatre intérimaire qui est grosso modo là tout... 6 mois par an, avec une alternance en tout cas telle que le suivi des patients. J'ai une exigence qui est que chaque patient puisse être accompagné par les mêmes interlocuteurs. Donc tout est construit pour que chaque médecin ait sa patientèle. C'est pas toujours très simple avec des médecins intérimaires évidemment. Là on a cette chance-là. Nous avons deux assistantes sociales, que je n'oublie personne. Un infirmier en pratique avancée, hein, ça c'est un des moyens mis en œuvre par le gouvernement actuellement pour suppléer au manque de médecins. Donc il est bien évident qu'un infirmier en pratique avancée n'est pas un médecin, mais il collabore activement et de manière judicieuse à des soins qui risquent de se précariser sinon. Donc, moi j'arrive sur un secteur il y a 3 ans, moi je suis originaire du Nord, je fais une étude à Paris. Voilà, je suis venu chercher des arbres et des prairies pour mes chevaux. Et quand je suis arrivé, j'ai briqué un peu. Et quand je suis arrivé, j'arrive au CHS, donc, où je découvre un service organisé, si on peut dire, depuis 5 ans, depuis la fermeture en fait, de l'hôpital psychiatrique, les unités de soins hospitaliers psychiatriques de Fontenay, qui ont été rattachées par défaut médical à La Roche-sur-Yon. Suite à quoi, pendant 5 ans, en fait, ce secteur de Sud-Vendée a été dévolu aux 4 secteurs en fait, de Vendée. Il n'a été rattaché à aucun et donc, successivement, ces différents services se sont succédés en termes de consultations, en termes de différence de médecins. Ce qui fait que quand je suis arrivé, j'ai vu des patients qui avaient vu 15 médecins en l'espace de 5 ans, ce qui me semble juste du délire en termes de qualité de soins. Donc quand je suis arrivé et que j'ai juste demandé à travailler à Fontenay et que à Fontenay et pas éparpillé de partout, forcément ça a intéressé tout le monde. Je dis ça pour faire un peu de politique générale, mais nous sommes très dépendants des médecins évidemment. Il y a un manque de dotation, c'est sûr, mais également un manque de répartition de ces médecins, c'est-à-dire que comme il y a un manque de médecins, ils sont éparpillés de partout, ils sont au four et au moulin, et à mon sens, quand ils sont au four et au moulin, ils ne peuvent pas bien faire les choses. Et donc, c'est pas seulement, ceci pour souligner, c'est pas seulement un défaut de médecin qui peut faire une précarité de soins, c'est aussi un défaut d'organisation à mon sens. Donc il y a des choses à faire, je pense. Ceci étant, donc je suis arrivé, et avec la même économie de moyens que j'avais, on a organisé un petit peu les choses, et aujourd'hui, je peux le dire parce que c'est pérenne, hein, j'ai attendu un petit peu avant de présenter notre action de soins, parce qu'il nous a fallu un tout petit peu de temps, quand même 3 ans, c'est rapide, mais quand même, il faut un peu de temps pour que ça soit qualitatif et pérenne. Donc aujourd'hui, je tenais à ce que déjà, axer mon organisation de soins sur le centre médico-psychologique, où je n'avais pas du tout l'idée qu'on puisse continuer à accueillir des gens dans un délai qui est de... variable, 2-3 semaines à 4 mois. Voilà, j'ai l'âge de considérer que quelqu'un qui est mal, quel que soit son état grave ou pas sur le plan psychiatrique, que ça soit de la crise existentielle à un état psychopathologique extrêmement dégradé, toute personne est en souffrance et il est important de l'accueillir rapidement, quitte à décliner ensuite un soin adapté selon effectivement les troubles, la souffrance du patient. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir organisé les choses de telle sorte. Il faut voir que, en préalable, excusez-moi, donc quelqu'un qui vient au CMP appelle à le secrétariat. On a doté ensuite un poste de coordination où, dès qu'il y a une prise de rendez-vous ou tout pour tout problème médical, il y a une dotation d'un temps défini pour une infirmière de prendre au téléphone l'accession aux soins ou la gestion, enfin la suite des soins. Suite à quoi, il y a une orientation donc vers le médecin s'il y a besoin. Et tous les mardis, nous nous réunissons pour faire un état des lieux de toutes les nouvelles demandes pour définir un programme de soins. En pratique, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a dévolu tous les jours deux créneaux d'urgence d'accueil au CMP pour toute personne qui présenterait des troubles psychiatriques importants et graves qui nécessitent une visite dans la journée. Et j'ai fait en sorte que des créneaux de première demande soient suffisamment dotés pour que toute personne appelant au CMP pour une demande de soins soit vue dans la semaine. Au gré des arrêts maladie, au gré de certaines petites choses, on n'est pas toujours raccord avec ça, mais actuellement, on excède rarement deux semaines et demie. Donc ça, je suis vraiment très fier de l'équipe de soins, voilà, qui a bien compris que, par exemple, quand quelqu'un fait un infarctus du myocarde, on comprend très bien que c'est important de pas attendre 6 mois pour être visité. Aujourd'hui, on est vraiment bien organisé pour pouvoir voir les gens dans une première demande dans la semaine et en urgence tous les jours. Avec à l'issue, parce que ça c'est pas possible autrement pour moi, je peux pas demander aux infirmières de faire ce travail-là d'accueil et d'être soumise à des situations parfois difficiles, complexes, sans pour autant être en permanence présente au décours de la consultation s'il y a besoin d'un médecin. Donc ça, c'est vraiment très important. Je dis ça, tout ça a l'air très simple, mais on avait une réunion là, il y a quelques semaines avec certains médecins, et j'en profitais pour définir un petit peu ce qu'on était en train de faire, fort d'une expérience où il y a un patient que j'étais en train de voir et qui me faisait part qu'il avait sollicité son médecin traitant pour accéder à un soin, notamment au CMP, ce à quoi le médecin lui avait dit que c'était une très bonne idée, mais qu'il n'aurait pas moyen d'avoir une consultation avant 6 mois. Donc ça me semble important. Justement, ces rencontres sont importantes pour arriver à se présenter, qu'on ait une bonne visibilité sur ce que chacun fait, pour pouvoir le mieux possible orienter les gens qui en ont besoin vers un soin qui aujourd'hui me semble être bien doté.
Comment vous gérez cette situation avec la santé mentale?
Ça dépend ce que vous entendez par santé mentale.
C'est assez large tout ce qu'on explique.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne fais pas de distinction entre une crise existentielle où ça touche la santé mentale, l'état psychique d'un patient, voilà, qui est en train de divorcer de manière subie, pas subie, enfin quelqu'un qui est en épuisement professionnel, qui n'arrive pas à prendre la mesure de qu'est-ce qui participe de son épuisement professionnel. Voilà, les enfants qui vont faire des études supérieures et ils n'ont pas été encore habitués, il n'y a plus de service militaire aujourd'hui, mais enfin voilà, ils vont partir à Nantes, donc c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress financier, tout machin. Voilà, c'est à partir de là, ça peut créer des souffrances qui sont notables, surtout quand ça se multiplie et ça vient impacter tous les registres de la vie quotidienne, que ce soit au travail, dans la qualité de vie avec les enfants, avec son conjoint, ses amis, etc. Donc ça peut être une crise existentielle qui peut paraître effectivement pas une crise de folie nécessitant une hospitalisation. Pour moi, tout est, à partir du moment où il y a une souffrance psychique, pour moi, c'est de l'ordre de la santé mentale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai organisé les choses de sorte qu'on accueille tout le monde. Fort à nous, après, ayant vu quelqu'un très rapidement, d'organiser des soins qui soient le plus adaptés possible en tenant compte de, effectivement, la multiplicité des gens que l'on accueille, et on peut pas suivre tout le monde. Donc il y a des gens qui pourraient être dans la permanence du suivi avec un médecin traitant. S'il y a un médecin traitant, on est de plus en plus confronté au fait que les gens n'ont plus de médecin traitant. Il y a plein de choses avec plein d'interlocuteurs de ce fait avec qui mettre en place des choses pour le mieux accompagner possible des patients qui sont en situation de souffrance et de précarité d'accompagnement médical, social, environnemental.
Est-ce qu'on doit passer par un professionnel de la santé avant de vous voir, ou est-ce qu'une personne directement, on peut aller directement au CMP?
Comment ça fonctionne? Toute personne qui se sent mal peut, ayant la chance de voir un médecin qui lui propose de venir, nous appeler, mais toute personne qui a notre numéro de téléphone nous appelle et on prend l'appel et on apprécie au téléphone ce dont il est question, et s'il y a nécessité, un rendez-vous est donné dans la semaine, et s'il y a urgence, c'est dans la journée.
Est-ce que vous donneriez des signes avant-coureurs, peut-être, que des idées de
quelqu'un
de
qui se sent mal dans sa peau? Ouais, je pense que c'est déjà un signe. Enfin, je suis très simple, quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, je ne fais pas de dessin, quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, pour moi, c'est déjà le début de la santé mentale. C'est comme ça que je le prends. Je dis ça, c'est pas idiot ce que vous dites, parce que longtemps, la psychiatrie, notamment publique, moi j'ai travaillé beaucoup en libéral aussi, longtemps la psychiatrie publique, c'était les fous dingues qui étaient non pas hospitalisés, mais à mettre à l'asile. Donc on vient de là quand même. Donc les gens qui venaient au CMP, c'est des gens qui faisaient une bouffée délirante, c'est des gens qui étaient paranoïaques et qui étaient en train de, voilà, avec force de l'ordre, en train de vouloir assassiner un tel et un tel. Voilà, non, ce n'est pas ça. On accueille tout le monde. Et je précise d'ailleurs, c'est très important, toutes ces questions que vous me posez. C'est que dans l'actualité de notre situation aujourd'hui, sur notre secteur géographique, nous avons un médecin psychiatre libéral et il y a nous. Et il y a nous. Je vous laisse prendre la mesure quand même, alors je n'ai pas les chiffres, je me suis dit je ne vais pas vous ennuyer avec les chiffres, de l'ampleur de notre consultation infirmière, psychologue et médecin psychiatre, elle est extrêmement conséquente. Donc vous imaginez bien qu'un médecin libéral sur Fontenay pour tout notre secteur ne va pas pouvoir accueillir tous les gens qui sont en souffrance dans notre bassin d'habitation. Donc c'est on accueille tout le monde aujourd'hui, en tout cas, enfin déjà ça a toujours été mon idée bien sûr d'accueillir tout le monde, mais qui plus est par rapport à l'histoire, nous sommes dévolus à accueillir tout le monde sans distinction. Il n'y a pas, c'est pas les malades, les graves malades psychiatriques et puis les autres qui vont voir un psychologue, voilà, quand c'est pas trop grave. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses.
Merci monsieur Perret pour toutes ces réponses à vos questions. Vous en savez plus maintenant sur la santé mentale. Mais concrètement, sur le territoire en 2024, il y a plusieurs actions qui seront proposées par le CLS. Je vais laisser la parole à Carole Lucas et à Marion Michaud, la coordinatrice et la responsable pour Carole de ces différentes actions qui vont être proposées sur le territoire.
Merci déjà aux intervenants. J'espère que ça a pu vous mettre en éveil, en réflexion. L'idée aujourd'hui, sur un temps aussi court, c'était vraiment de pouvoir éveiller les esprits. Je remercie aussi Nicolas pour son animation et sa présence et son soutien. Donc vraiment l'idée aujourd'hui, c'était d'ouvrir le prisme en se disant qu'aujourd'hui, la santé mentale, c'est tout le monde. C'est nous, mais c'est des collègues, c'est des amis, c'est effectivement nos usagers. Et l'idée, c'est peut-être aussi d'aller plus loin sur comment je peux accompagner, parce qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent, le CMP est présent, mais comment nous, professionnels ou amis ou entourage, on peut accompagner, comment, parce que c'est pas, même si on fait un repérage, c'est toujours délicat de pouvoir accompagner, orienter sur un CMP. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller plus loin.
Pour aller plus loin, donc, le CLS envisage de proposer des actions ou des temps de sensibilisation d'une part auprès de la population. Donc c'est des temps qui vont, enfin c'est la, on va intégrer le thème de la santé mentale dans les actions que l'on va proposer tout au long de l'année, donc que ce soit les actions portées par le CLS, mais aussi les actions portées par les partenaires. Mais aussi, on va faire des actions spécifiques sur la thématique, notamment par exemple dans les semaines d'information en santé mentale, où là, c'est vraiment un temps dédié à la santé mentale auprès d'un public, du grand public. Et puis, il va aussi y avoir des actions à destination donc des partenaires bénévoles ou élus. Donc, tout à l'heure, Madame Vance parlait de la formation des premiers gestes en santé mentale. Et c'est quelque chose que le CLS va mettre en place en 2024. Et pour terminer, pour les partenaires, on va proposer un réseau ou groupe de travail sur la thématique de la santé mentale, donc, qui va se mettre en place aussi prochainement, pour travailler l'interconnaissance et la mise en place d'actions collectives sur le territoire.
Je vais rebondir dessus, si Madame Vance, vous pouvez, normalement le micro reste allumé, et si vous pouvez parler de la formation que vous proposez actuellement.
Donc la mutualité, il y en a d'autres, hein, d'autres organismes, mais on fait partie des organismes qui proposent des formations, j'en ai distribué pas mal aux personnes qui étaient là, une formation à la santé mentale, hein. Donc le but de ces formations, c'est 2 jours, hein. Ce sera d'abord de déstigmatiser autour de la santé mentale, hein, ce que disait monsieur Perret tout à l'heure, c'est-à-dire que la santé mentale, ça concerne tout le monde, hein, c'est pas seulement une maladie, une psychiatrie, voilà. Donc ça va être d'abord de déstigmatiser cette idée-là. Ensuite, ça va être d'apprendre à repérer les signes. Hein. Qu'est-ce qui fait que, ce que disait notre animateur tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait penser que quelqu'un a besoin d'aide, hein, par exemple. Donc voilà, on va repérer ça. Et puis ensuite, la chose qui nous paraît la plus importante, c'est qu'on va apprendre à avoir une attitude par rapport à ça. C'est-à-dire quand quelqu'un se présente à vous, ou vous êtes en compagnie de quelqu'un où il vous sent que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est quelle attitude vous allez avoir par rapport à cette personne. Donc ça, c'est le délicat, on va dire, de la chose, parce que évidemment, on respecte la personne qui est en face de soi. Parfois, les personnes n'ont pas envie d'être aidées. Parfois, c'est plus subtil que ça. Il faut entrer en relation avec la personne. Comment on fait ? On ne se place pas en juge, en bien-pensant, enfin, etc. Et donc, pendant ces 2 jours de formation, on apprend aussi à approcher la personne et on se met en situation très concrète pour accompagner quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Donc voilà, donc vous avez pour certains pris les formulaires, hein, et puis il y en a d'autres à l'entrée qui sont proposés. Ce sont 2 jours, et donc c'est une formation citoyenne, c'est-à-dire que les gens qui viennent en formation, on ne sait pas forcément ce qu'ils font, ce ne sont pas forcément des professionnels, et quand bien même, on n'a pas à le savoir, c'est une formation citoyenne, ouverte à tous. Donc on intervient sur les Pays de la Loire. Hein.
Toute la journée, vous écoutez Digue Radio sur digradio.fr.